France Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
C'est l'une des sept nouvelles merveilles du monde, la cité de Petra en Jordanie, érigée à partir du 6e siècle avant notre ère. Qui étaient ses habitants? Les Nabatéens, parmi les peuples les moins documentés de l'histoire. En octobre, une équipe américaine a fait la découverte de 12 squelettes sous le site de la Rasnée, le bijou architectural de Petra que l'on voit dans Indiana Jones. Pendant 11 siècles, la cité a été oubliée dans la mémoire occidentale avant d'être découverte en 1812. Elle fait depuis l'objet de recherches scientifiques, mais on la connaît finalement très peu. 95% des vestiges sont toujours enfouis sous les roches. Avec le surtourisme et les pluies diluviennes liées au réchauffement climatique, c'est aussi un patrimoine en danger. Les travaux de fouilles s'inscrivent aussi dans une perspective de sauvegarde. Petra, si t'es perdu, on te retrouve. François Renel, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes archéologue à l'INRAP, spécialiste du domaine nabatéen et responsable depuis 25 ans de la mission archéologique du Kasr al-Bint à Petra. Et nous sommes en ligne également avec Laurent Tolbeck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en archéologie classique à l'Université Libre de Bruxelles, directeur de la mission archéologique française à Petra, qui, en 2022, vous avez obtenu le Grand Prix d'archéologie de la Fondation Simone et Sino Del Duca, Institut de France. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. Merci à tous ceux qui nous rejoignent sur Blue Sky. Comme tous les jours, cette émission est animée non plus sur Twitter, sur X, mais elle est désormais sur Blue Sky, sur notre compte @sciencecqfd. Vous retrouverez toutes nos sources et nos ressources. Alors comment reconstituer l'histoire de Petra? Quels sont les outils des archéologues? Quelles sont les découvertes que vos travaux ont permis d'apporter et que nous racontent les différents sanctuaires sur l'organisation de ses habitants? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, on vous fait la visite avec notre archive du jour.
Au Proche-Orient, la Jordanie est une terre d'histoire. Le pays regorge de trésors archéologiques. Le plus beau est incontestablement le site de Petra. Le site, créé dès l'Antiquité, est ensuite occupé au VIe siècle avant Jésus-Christ par les Nabatéens, peuple arabe qui, en se sédentarisant ici, le fera prospérer en commerçant avec les caravanes, transportant l'encens, les épices et autres produits de luxe entre l'Égypte, la Syrie, l'Arabie et la Méditerranée. Vers le 8e siècle, la modification des routes commerciales et les séismes entraînent l'abandon progressif de la ville par ses habitants. Tombé dans l'oubli, le site est redécouvert par l'explorateur suisse Jean-Louis Burckhardt en 1812.
Nous sommes en face du premier monument à Petra qu'on peut voir après l'entrée du site. C'est le bloc de djinn ou les réservoirs.
À l'entrée du site, les djinn, qui en arabe signifie « esprit ». Certains pensent qu'il s'agissait de tombes.
Qui a transformé effectivement le site en une entrée, une voie d'entrée importante.
Enfin, derrière deux rideaux de grès entrebâillés, apparaît l'un des plus beaux spectacles au monde, la Kasnée, qui signifie le trésor. Le monument, qui n'est d'abord qu'une fissure lumineuse, ne se dévoile que peu à peu dans son ensemble.
Voilà un extrait du documentaire « Petra et les Nabatéens » réalisé par Jacques Vichet en 2023. François Renel, vous y allez deux fois par an pour continuer les fouilles. Quand on est sur place, que voit-on? Est-ce que vous pouvez nous décrire justement le décor, les bâtiments les plus emblématiques de Petra?
En fait, c'est un site assez riche. Ce que l'on voit en premier, c'est les couleurs. Et des couleurs qui varient en fait au fil de la journée. Il y a un chemin un peu classique en fait de passer par effectivement les djinn blocks qui sont des tombes. Ensuite, on emprunte le sikh qui est une voie processionnelle pour aboutir sur la Rasnée. Et encore en cheminant encore quelques temps, nous arrivons sur la cuvette qui forme le centre-ville de Petra avec toute une série de tombeaux royaux et tous les monuments à la fois civiques et religieux de la cité.
Laurent Tolbeck, pour poursuivre cette visite.
Alors, mais non, comme le dit François, effectivement, on est à l'intérieur d'une ville qui est entourée de montagnes. Et ce qui est particulièrement spectaculaire, c'est la couleur, c'est du grès, c'est un grès d'une couleur absolument splendide. Mais surtout, c'est le fait que tout autour du centre-ville, vous avez des tombeaux rupestres, parfois extrêmement impressionnants. Et donc, ça vous donne un décor extrêmement vivant, en réalité, hein, alors que vous promenez dans une ville ruinée.
Une ville ruinée, mais depuis le milieu du 19e siècle, François Renel, cette ville ruinée fait l'objet de recherches scientifiques, et la recherche scientifique en cours, c'est une entreprise colossale, hein, puisqu'on parle quand même d'une cité qui s'étend sur près de 10 kilomètres.
En fait, ce que l'on connaît réellement, même depuis le 19e siècle, ce sont les façades des tombeaux royaux qu'évoquait Laurent. Mais il y a toute une série, en fait, de ruines. Effectivement, on est dans le squelette d'une cité qui est entièrement recouverte de sédiments. Donc, en fait, on a un site qui est un peu mixte, c'est-à-dire des façades et tout un ensemble de bâtiments qui n'attendent qu'à être dégagés.
Et puis, on a donc cette mission archéologique française à Petra, la MAFP, Laurent Tolbecq, qui s'emploie depuis 1999 à étudier les espaces religieux de la capitale nabatéenne.
Alors, le cœur de l'entreprise, c'était d'essayer de mieux comprendre un bâtiment emblématique de la ville sur lequel on va revenir, qui s'appelle le Qasr el-Bint, et surtout de mieux comprendre son environnement. Donc, de l'intégrer finalement dans une histoire plus longue que simplement la construction d'un bâtiment. Et puis, donc ça c'est le point de départ. Et puis alors, on a élargi la question à d'autres espaces religieux pour mieux comprendre effectivement comment fonctionnait la religion dans cette société particulière. Donc on a quitté un bâtiment emblématique pour se tourner aussi vers toutes les strates de la population et mieux comprendre le fonctionnement plus général, si vous voulez, du fait religieux dans cette culture.
Et on verra justement ce que le Qasr el-Bint peut nous apprendre des anciens habitants de Petra et ainsi que la fouille des horizons de ce temple. Mais d'abord, François Renel, on l'entendait au début de cette archive, hein, on parle d'une cité qui a été érigée à partir du 6e siècle avant notre ère. Quelle est l'histoire de Petra et de ses habitants, des différents occupants?
En fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Il y a une occupation édomite, donc de l'âge du fer. On a après une période d'absence, enfin de vestiges, qui correspond à la période perse. Et les vrais vestiges tangibles, qui correspondent en fait à l'installation de la cité nabatéenne telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc une occupation qui va évoluer au fil du temps avec un habitat qui se développe, avec sans doute un proto-temple, et sans doute des structures palatiales, et progressivement elle va s'embellir avec un âge d'or en fait qu'il faut situer entre le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ et le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, qui est la période nabatéenne classique.
Laurent Tolbecq.
Et après cela, eh bien, ce qu'on essaie de comprendre quand on est sur le terrain, c'est la transformation d'une ville royale, qui est une capitale, en une petite ville de province plutôt périphérique lorsqu'elle devient romaine, c'est-à-dire que ce royaume est annexé par Rome en 106 de notre ère, et donc devient plutôt, au lieu d'être un centre, ça devient plutôt une marge. Et donc, on essaye d'étudier la monumentalisation romaine de cette petite ville, finalement, de province qu'elle devient hein, au 2e, 3e, 4e siècle. Et puis, la suite de son histoire qui, comme vous le disiez, est marquée par des séismes importants. Alors, ça aide les archéologues, évidemment. Ça permet de comprendre des grandes séquences de destruction et des grandes séquences de, quand ça arrive, reconstruction.
Mais alors pourquoi Laurent Tolbecq, pourquoi les Nabatéens ont-ils fini par quitter Petra? Ça, c'est une histoire qui est encore à écrire.
Alors, ont-ils quitté? C'est-à-dire que leur royaume est intégré dans une structure différente, c'est-à-dire elle devient romaine, hein, ce territoire devient romain, mais les habitants sont toujours là. Certes, l'élite disparaît de nos sources, mais ça ne veut pas dire que l'élite disparaît au sens strict, c'est-à-dire que la vie continue. Les réseaux caravaniers se poursuivent certainement au IIe siècle, et puis on voit que la protection de ces réseaux, elle commence à changer de main, elle devient de plus en plus romaine, et effectivement, il y a des changements radicaux qui interviennent à l'époque, ce qu'on appelle l'époque tardo-antique, donc la tardo-romaine, 3e, 4e siècle, et encore plus radicalement à l'époque byzantine. Mais donc, ils ne disparaissent pas, tant s'en faut. Culturellement, c'est une culture qui se poursuit à l'époque romaine.
On ne peut pas vraiment dire que Petra a été abandonnée après l'arrivée de Rome et suite au tremblement de terre. François Renel, Petra est donc devenue la terre d'accueil des Nabatéens, qui sont donc sédentarisés à Petra. C'est grâce à eux que cette ville est devenue un centre d'activité commerciale, un lieu clé pour les échanges commerciaux.
En fait, effectivement, ils font fortune sur les échanges et sur la diplomatie par rapport aux caravanes qu'ils contrôlent. Donc, ils font entrer des richesses sur la ville. Et ces richesses vont leur permettre, en fait, de développer la cité, de développer des réseaux commerciaux avec le bassin oriental méditerranéen. Et très vite, en fait, on le voit au niveau de la culture matérielle, un apport et une acculturation par rapport au monde hellénistique que l'on connaît.
On voit des échanges commerciaux, Laurent Tolbecq, qui relient l'Égypte, la Syrie, l'Arabie et la Méditerranée.
Oui, c'est un réseau immense. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un monsieur nabatéen qui part du bout de la chaîne et qui arrive de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il partirait du sud du Yémen actuel et qui irait jusqu'à Rome lui-même. Mais donc, c'est un maillon d'une chaîne extrêmement longue et ça, c'est organisé suivant un système assez simple. Vous avez des investisseurs, vous avez des commerçants qui connaissent les réseaux, et puis c'est une manière, la caravane, une manière de structurer la société, parce qu'évidemment, sur tous ces espaces traversés, on a besoin de chameliers, on a besoin de gens qui les guident, et donc c'est une manière, finalement, ce commerce structure le pouvoir et structure la société sur un territoire qui est beaucoup plus grand que Petra.
Oui, vous dites d'ailleurs, Laurent Tolbecq, dans une interview, les Nabatéens sont un peuple qui est entre le système monde méditerranéen et le monde de l'océan Indien.
Oui, ils assurent le lien. Alors, le fait est qu'ils ne sont pas les seuls, c'est-à-dire que c'est un marché très profitable, un commerce très profitable, donc ils sont en concurrence avec d'autres, assurément avec les gens qui, au même moment, tiennent l'Égypte, parce que grâce à la mer Rouge, il y a un commerce maritime, donc si vous voulez, vous avez une concurrence entre un commerce caravanier à travers la péninsule arabique et un commerce maritime, par exemple. Donc, ils sont nombreux sur ce chaînon, si vous voulez.
François Renel, on est en plein désert, mais les Nabatéens ont développé une infrastructure de gestion des eaux impressionnante et assez ingénieuse.
Elle est ingénieuse, mais c'est aussi un héritage de la période édomite, puisqu'on a dès le départ en fait un système de citernes à ciel ouvert. Mais par la suite, en fait, ils vont développer un système pour capter la moindre goutte d'eau sur le site, avec des systèmes de canaux sur les montagnes qui vont alimenter elles-mêmes des barrages et des fontaines. Donc, un système qui permet d'avoir de l'eau de façon pérenne sur toute la cité.
Ces compétences hydrauliques des Nabatéens, on le voit dès le SIC, hein, ce fameux cordon ombilical qui emmène sur la célèbre façade de la Rasnée.
Alors le SIC est un défilé naturel, hein, ça a été creusé par l'eau, donc c'est le tracé en fait de ce qu'on appelle le Wadi Moussa, donc le Wadi qui traverse la cité et qui la coupe en deux. Donc très vite, pour éviter les grandes crues que l'on connaît annuellement, en fait, ils vont développer à la fois ce système de barrage de captation et aussi un système de tunnel à l'entrée du site pour canaliser l'eau et éviter en fait des destructions sur le site.
Il y a tout, Laurent Tolbecq, il y a tout un système donc de récupération de la moindre goutte d'eau de pluie.
Mais oui, certes, de l'eau de pluie, bien sûr, mais il y a aussi des sources pérennes. Hein. Donc, Petra se développe dans une cuvette au pied d'une montagne calcaire. On est dans du grès et c'est une ville qui se développe au pied du calcaire. Entre le grès et le calcaire, vous avez des sources. Donc, il y a une série de sources pérennes qui sont canalisées vers le centre-ville, trois sources principales. Et donc, ça, c'est la base. Et puis, à cela s'ajoute effectivement l'eau de pluie dont chaque goutte est effectivement récupérée.
Ces ingénieurs du désert, François Renel, finalement, on les connaît très peu, comme ce que je disais dans mon introduction.
On les connaît peu, puisqu'on a peu de documents épigraphiques, même leur histoire est peu connue. Nous avons que quelques auteurs anciens qui en parlent, on a Pline, on a Strabon. Mais effectivement, c'est vraiment l'archéologie qui permet de développer, de démêler un peu les rares éléments que l'on a et de construire cette histoire.
Laurent Tolbecq?
Oui, c'est vrai. Alors, ils ont une langue, évidemment, et donc, il y a quelques textes dans leur langue, hein. C'est un araméen, c'est la langue du Christ d'ailleurs. Et il y a quelques textes, mais effectivement, c'est une poignée de textes. Et ce sont essentiellement des signatures, donc des noms, un tel, fils d'un tel. Il y a quelques textes un petit peu plus longs, quelques dédicaces. Alors, ça nous aide à caler un petit peu un certain nombre de règnes dans le temps, d'abord. Donc, des dédicaces, des dates, des choses comme ça. Et aussi des monnaies. Alors, les monnaies, ces rois frappent des monnaies. Et ces monnaies sont datées. Alors, ça nous a bien aidé à établir une chronologie assez longue d'un certain nombre de règnes qui se succèdent.
On a, toujours à propos des Nabatéens, on a cette découverte récente en octobre dernier, qui nous a d'ailleurs donné envie de faire cette émission. C'est des archéologues américains qui ont donc mis au jour la sépulture vieille de 2000 ans de 12 squelettes sous la Casnée de Petra. Est-ce que cette découverte va nous permettre d'en savoir plus sur les Nabatéens, François Renel?
Alors, c'est un élément de la chaîne supplémentaire, mais c'est pas une découverte majeure en tant que telle, puisque on savait qu'effectivement qu'il y avait des tombeaux à cet endroit-là, puisque deux tombeaux avaient déjà été fouillés en 2003. Ce qui était intéressant, c'est d'avoir des tombes qui n'ont pas été pillées récemment, puisqu'elles ont dû être pillées dans l'Antiquité, et qu'elles vont pouvoir être étudiées de façon scientifique. Elles vont compléter, en fait, le corpus des tombes que l'on connaît déjà.
Ce corpus de tombes qu'on connaît déjà, enfin, est-ce qu'on a une idée d'ailleurs du nombre de tombes qu'il y a au total à Petra ?
Plusieurs centaines. Enfin, on a à la fois les tombeaux visibles, donc toutes les façades ornementées qui sont classées sur une typologie établie depuis un certain temps, mais on a aussi tous les tombeaux de familles plus modestes, qui sont simplement des descendries avec des chambres funéraires taillées dans le rocher.
Laurent Tolbecq ?
Oui, en fait, c'est toujours intéressant d'ajouter des squelettes à un corpus. Bon, alors ces squelettes ont été, c'est pas une découverte récente, ils ont été découverts il y a une vingtaine d'années, réenfouis et puis réexhumés à grand bruit pour justement faire le buzz. Mais là n'est pas la question. On ajoute des données à un corpus qui est en cours d'étude. Alors, comment est-ce qu'on étudie des squelettes ? On a une collègue américaine, Megan Perry, qui fait ça remarquablement bien, qui étudie par exemple les traumatismes. Et donc, elle a vu que, mais finalement, ils étaient plutôt en bonne santé, ces Nabatéens. Hein. Il y a peu de traumatismes liés au travail, par exemple. On peut aussi étudier le régime alimentaire. Alors, elle a étudié précisément le régime alimentaire des enfants à Petra. C'est assez étonnant parce qu'on se rend compte qu'ils mangent sevrés. En fait, ils ont un complément alimentaire jusqu'à 3-4 ans. Et puis, entre 4 ans et 7 ans, ils mangent à peu près comme les adultes. Enfin non, ils n'ont rien de spécial, si vous voulez. Ils perdent cet apport supplémentaire. Et puis, à partir de 7 ans, ils rentrent dans le même régime alimentaire que les adultes. On a le sentiment qu'ils sont un petit peu laissés de côté entre 3-4 ans et 7 ans, par exemple. Donc, voilà, il y a moyen de faire une série d'analyses au-delà même de l'anthropologie physique, si vous voulez.
Alors, quels sont les enjeux de la recherche archéologique autour de Petra ? Comment mieux comprendre la Casnée dont on ignore encore avec précision la fonction première ? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, avec François Renel et Laurent Tolbecq, nous sommes à Petra, en Jordanie, sur le site de fouilles archéologiques de la mythique cité nabatéenne. On vient de décrire cette cité taillée dans les falaises de grès de couleur rose ou brune. On vient d'évoquer les compétences hydrauliques des Nabatéens. Et puis, on parle à présent de la Rasnée, qui veut dire le trésor. François Renel, on peut peut-être décrire cette façade iconique que tous les spectateurs d'Indiana Jones connaissent.
Alors, c'est une façade taillée dans la roche, donc taillée depuis le haut vers le bas, tout à fait naturellement. Donc, c'est un décor architectural qui est très inspiré du monde hellénistique, qui a des modèles alexandrins. Et en fait, à sa base, on a une série de chambres. On a trois chambres et un vestibule d'entrée qui correspondent en fait à un mausolée royal.
On a sur cette facette, Laurent Tolbecq, des dieux, des déesses nabatéennes, des figures mythologiques grecques, égyptiennes, assyriennes, tout ça c'est un beau melting pot.
Oui, vous avez bien raison. C'est très, très mélangé. C'est une question importante. Alors, est-ce que ce sont des images nabatéennes ou ce sont des images qu'ils ont empruntées à d'autres cultures? Alors, c'est plutôt la deuxième réponse. Et puis, après, il faut essayer de comprendre de quelle culture, à quelle culture ils ont emprunté et puis pourquoi. Donc, par exemple, vous avez la représentation assez classique dans le domaine oriental de la Méditerranée orientale, en tout cas, d'une reine divinisée. Bon, il y a aussi beaucoup moins classique dans le domaine égyptien deux Dioscures. Alors c'est plutôt du côté syrien, hellénistique, on a ces Dioscures. Donc voilà, il y a une espèce de mélange d'images. Il y a six Amazones dansant aussi, c'est assez étrange, dont on s'explique pas exactement la présence. Donc voilà, il y a une nécessaire relecture de toutes ces images dans ce contexte royal nabatéen.
Laurent Delbecq, en fait, cette façade, ça n'est qu'un premier étage en plus.
Oui, c'est-à-dire, enfin, un premier étage. Vous avez une succession d'ordres, en quelque sorte. Ce qui est passionnant, assez étonnant, c'est que au sommet de cette façade, et je pense que tout le monde a cette image en tête, vous avez ce qu'on appelle une tholos, c'est-à-dire un petit temple circulaire. Et ça, c'est tout à fait caractéristique à la fois de l'époque et de ce qu'on appelle les temples de la fortune. Donc, il y a là une représentation d'une reine sous forme de fortune, la fortune de Petra, la fortune des Nabatéens. Voilà. Et puis, donc, pour le reste, c'est effectivement un mausolée royal. On peut aller un tout petit peu plus loin. Dès lors que certaines tombes plus anciennes ont été fouillées au pied de la Khasnée, on a maintenant une date, une fourchette. Alors, très longtemps, on s'est interrogé. Pendant un siècle et demi, tout le monde a fait des propositions. Puis maintenant, on sait que c'est plus ou moins disons dans le premier quart du premier siècle de notre ère que ce extraordinaire bâtiment a été taillé.
Oui, parce que je lisais en préparant cette émission qu'on avait encore des doutes sur la date exacte de sa construction, François Renel, qu'elle aurait pu être en effet construite entre le premier siècle avant notre ère, mais aussi datée du premier siècle de notre ère.
En fait, sur beaucoup de monuments de Petra, on a encore énormément de doutes, hein, tant qu'on a, en particulier pour les bâtiments construits, tant qu'on ne les a pas fouillés, on n'a pas d'éléments vraiment pour affiner la chronologie. Et concernant ce monument, donc qui n'est pas pourvu d'épigraphie, c'est plutôt dans le style, par rapport au style que l'on réfléchit. Et là, une fois de plus, c'est comme disait Laurent, c'est les données archéologiques, donc les tombes qui ont été fouillées anciennement à la base donc de ce monument. Donc, il faut imaginer, pour les gens qui connaissent le site, la façade de la Khasnée correspond à un deuxième état. Anciennement, en fait, l'esplanade qui est devant est à situer 5 à 6 mètres plus bas, avec une cour d'allée, des tombeaux. Et lors d'une phase, donc vers le tournant de notre ère ou dans le premier quart du premier siècle après Jésus-Christ, en fait, c'est remblayé pour construire ce monument. Et donc, c'est les éléments qui ont été retrouvés sous terre, qui ont permis en fait de dater l'élément en élévation, puisque c'est monolithe, donc ce n'est pas datable en tant que tel.
Derrière la Khasnée, pour prolonger justement le cheminement dans la cité de Petra, Laurent Tolbecq, on a un cours défilé, un moins étroit que le Sic, qui conduit à la ville basse où se trouve l'allée des façades et la nécropole. Et là, on a donc plus de 800 tombes en plein désert.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez des tombes royales, mais vous avez aussi des tombes d'une population qui appartient pas du tout à cette élite commerciale. Et donc, vous avez toutes sortes de tailles, de largeurs, de qualités en réalité de tombes. Il faut aussi saisir que ces tombes recevaient une façade stuquée, avec une couleur différente, donc ça devait être extraordinairement chamarré, et que par ailleurs, devant ces tombes, il y avait des jardins. Donc il y a un espace qui appartient à la famille, et qui est un espace de production, qui est un espace dans lequel on se recueille lors de moments commémoratifs. Donc voilà, on ne voit qu'un petit morceau de cette réalité funéraire, elle est bien plus large évidemment que ses façades.
François Renel.
Oui, alors pour prolonger hein, effectivement cette idée, c'est que durant la période nabatéenne, en tout cas, les Nabatéens vivent avec leur mort. Donc il y a une coexistence entre le vivant et le mort. Et il faut sans doute imaginer vers la période romaine, donc au moment de l'annexion romaine, que les choses changent, puisque dans la mentalité et dans les lois romaines, ce n'est plus possible. Et d'ailleurs, par rapport au mobilier que l'on retrouve devant ces tombeaux, donc on les fréquente, on faisait des offrandes auparavant, il semble qu'il y ait un abandon vers le deuxième siècle après Jésus-Christ.
Et puis ces tombeaux aussi étaient extrêmement importants, je crois, dans la distribution de l'eau en particulier, François Renel.
Alors ça, c'est une donnée qu'on a quand même encore du mal à mesurer, mais effectivement, dans la mesure où ce sont des petits domaines en tant que tels, il doit y avoir tout un système de lois et de règles qui régissent l'ensemble.
Laurent Tolbecq.
Oui, non, je pense à certains textes dans le domaine alexandrin qui sont tout à fait passionnants parce que, par exemple, ils montrent que ce qu'on produit dans ces espaces privatifs funéraires est hors taxe. L'État ne perçoit pas de taxe dessus. Donc, les gens produisent un maximum sur ces petits espaces. Donc, il y a en fait toute une économie funéraire qui dépasse ces petits espaces funéraires qui existent et qui existaient certainement. Donc, on a 1000 choses à découvrir. Il faut être très imaginatif quelque part quand on est archéologue pour faire vivre ces espaces.
Puis quand on continue, donc on tombe sur le fameux Kasr al-Bint, hein, ce temple qui constitue à côté de la Casnée l'un des bâtiments les plus emblématiques de Petra. C'est le temple qui constitue en fait la plus grosse opération de fouilles parmi les sanctuaires de Petra, François Renel. Hein, ce sont des fouilles qui ont commencé à la fin des années 50.
Oui, alors en fait c'est un bâtiment qui a toujours intéressé les gens dans la mesure où c'est un bâtiment construit et c'est le seul qui est encore véritablement debout par rapport aux autres qui ont été détruits par les différents séismes. Donc effectivement, il a été cartographié très vite, fait l'objet de fouilles ponctuelles dans les années 50-60, mais véritablement, en fait, il y a eu un relevé architectural complet, il y a une publication à ce sujet en 2003, mais c'est surtout à partir de 99 que la mission française s'est attelée à essayer de comprendre son environnement, et essayer de le réinsérer dans un cadre plus global et définir son programme architectural.
C'est un des rares, le seul bâtiment d'ailleurs qui n'est pas taillé dans la roche. Après 20 ans de fouilles archéologiques, on a une idée, une reconstitution qui peut être faite de ce temple à l'époque des Nabatéens. À quoi ressemblait-il?
Alors en fait, ce que l'on connaît du monument, on a à peu près l'ensemble de son squelette, puisqu'on a aussi les colonnes qui définissent son pronaos et en arrière, donc on a la cella, la partie sacrée du temple. Le temple en lui-même est sur un podium entouré d'un péristyle, donc d'une colonnade. Et on a aussi face à lui un escalier monumental qui est revêtu de marbre, mais cela dans un deuxième temps, au cours de la période romaine, où on assiste à une phase d'embellissement du temple. C'est un temple qui est assez classique pour le monde hellénistique, donc c'est un toit à double pente avec couvert de tuiles. Et pour préciser, non, c'est pas le seul bâtiment construit, mais c'est le seul encore debout. En fait, les autres ont été entièrement ravagés par des incendies, par des séismes.
Laurent Tolbecq.
Oui, et donc c'est un bâtiment qui a marqué le paysage de tout temps. Les premiers voyageurs qui sont passés par là ont été éblouis par ce bâtiment. Les premières gravures dont on dispose, au début dans les années 1826, sauf erreur, par un Français d'ailleurs, hein, Laborde, qui était un jeune homme de 19 ans, qui faisait des dessins extraordinaires, présente ce bâtiment en élévation. Et puis alors effectivement, il a subi, j'ai envie de dire, un certain nombre de restaurations par le département des Antiquités de Jordanie. Donc il y a maintenant des angles. Il tient d'autant mieux qu'il a été bien restauré, disons.
Mais comment, parce que votre équipe, François Renel, continue d'en apprendre un peu plus sur ce temple. Vous avez fait en creusant, hein, vous avez eu la surprise de découvrir sous le temple des vestiges d'une phase pré-monumentale qui date de la période hellénistique.
Alors en fait, il faut considérer le temple dans un ensemble. Il est entouré, en fait, au devant du temple, on a un autel principal donc pour les sacrifices. Et on a aussi toute une esplanade sacrée que l'on appelle un téménos. Donc c'est une vaste étendue rectangulaire pavée. Et sous cette esplanade, en fait, lors de sondages ponctuels, nous avons eu la chance de mettre au jour des vestiges beaucoup plus anciens. Donc des vestiges qui remontent au 4e, 3e avant Jésus-Christ. Donc une phase pré-monumentale, effectivement, avec de l'habitat, avec des premiers d'autres structures liées au culte. Et cet ensemble, en fait, va être arasé vers le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ pour construire ce programme architectural monumental.
Oui, ça fait partie des vestiges les plus anciens qui ont été retrouvés à Petra.
Alors oui, c'est l'intérêt en fait du secteur du Kasr el-Bint, c'est qu'on a à peu près un millénaire d'occupation pour le site, grosso modo entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle après Jésus-Christ.
Et parmi justement ces vestiges, on a aussi beaucoup d'éléments d'importation, hein, des amphores, de la céramique grecque et puis aussi des corpus uniques de céramique nabatéenne.
Alors c'est l'avantage d'avoir des fouilles en fait sur le long, enfin d'avoir une longue occupation qui permet de définir en fait les différentes phases d'occupation et différentes cultures matérielles qui se succèdent. Et effectivement, au cours très tôt en fait, vers le 3e siècle avant Jésus-Christ, on se rend compte qu'à côté d'une céramique locale de facture moyenne, on importe énormément. On importe beaucoup d'amphores en fait de Rhodes, des amphores pour le vin, et on importe aussi beaucoup de céramique fine qui vient à la fois d'Athènes, de Rhodes, d'Égypte ou d'ailleurs. Et par la suite, en fait, très tôt, et ça c'est un phénomène que l'on observe un peu sur toute la zone du Levant Sud, donc du bassin oriental méditerranéen, vers le deuxième siècle, le premier siècle avant Jésus-Christ, les Nabatéens vont adapter vont développer eux-mêmes un vaisselier reprenant les prototypes hellénistiques. Donc une vaisselle qui est de très bonne facture, donc avec des décors magnifiques, qui caractérise en fait pleinement la culture nabatéenne.
Oui, parce que vous êtes aussi céramologue, François Renel. Ça veut dire que toutes ces centaines de milliers de tessons qu'on essaye de rassembler ensemble, ça nous permet d'en apprendre plus, de comprendre, d'approcher le mode de vie des habitants de Petra et leur degré de raffinement.
Alors, la céramique, c'est ce que l'on trouve de façon le plus important sur un site. Alors, ça permet en premier lieu de dater, en fait, de définir la chronologie du site, de voir l'évolution en fait des modes. C'est comme maintenant, certains décors peuvent durer 20 ans ou moins. Et effectivement, ça permet de retracer aussi le statut social des habitants. Ça permet de suivre aussi les courants commerciaux, l'évolution de ces courants. Et de voir, par exemple, là on fait un bond dans le temps, mais pour la période plus tardive, puisque à partir de la période dite romaine tardive, le Petra n'est plus vraiment dans les courants commerciaux, mais pour autant, on observe vraiment des importations encore de tout le bassin méditerranéen, en particulier d'Afrique du Nord ou de Mer Noire ou d'Égypte. Donc ce site va continuer à avoir en fait des importations jusqu'au bout.
Oui, et puis comme vous dites, tout ça témoigne d'un haut niveau de qualité de vie avec ces échanges commerciaux des 3e et 2e siècles avant notre ère. Mais il me semble que seulement 10% du site ont été fouillés.
Oui, effectivement. Alors il reste, et même si les 10% ne sont pas encore totalement saisis, mais on a en fait, comme on est dans le centre-ville, on a la partie en fait la plus riche du site, puisqu'on a à la fois les monuments cultuels et les complexes palatiaux, l'habitat modeste ayant été beaucoup moins perçu depuis 50 ans.
Alors que nous apprennent les fouilles dans l'environnement du Kasr al-Bint et pourquoi avoir voulu étendre les recherches à l'environnement direct du temple? Restez avec nous. Du groupe Indoor Life en direct sur France Culture, car nous parlons des fouilles archéologiques d'un site iconique, la cité de Petra en Jordanie. On en parle avec nos deux invités du jour, François Renel, archéologue à l'INRAP, spécialiste du domaine nabatéen, responsable depuis 25 ans de la mission archéologique du Kasr al-Bint à Petra, et Laurent Tolbeck, professeur en archéologie classique à l'Université Libre de Bruxelles, directeur de la mission archéologique française à Petra. Kasr al-Bint, c'est donc ce monument emblématique de la cité de Petra dont les fouilles ont révélé la grande richesse archéologique. Pour le reportage du jour, on vous présente un monument qui jouxtait ce grand temple, et c'est avec vous, Alexandre Morales. Bonjour.
Bonjour Natacha. Oui, et pour ça, je me suis rendu à Nanterre au laboratoire Arscan pour rencontrer Thibaut Fournet. Il est architecte et son travail consiste à documenter, dessiner, reconstituer et modéliser les monuments antiques effondrés. Récemment, il s'est intéressé avec le reste de son équipe aux ruines d'un bâtiment qui jouxtait le fameux temple Kasr al-Bint. Les archéologues ont d'abord pensé que ce monument était de taille modeste, mais il s'avère en fait aussi haut que le Grand Temple. Pour les chercheurs, il représente une véritable marque de la puissance de l'Empire romain dans la cité nabatéenne.
Le Kasr al-Bint, qui est le grand sanctuaire dynastique, le grand temple, et tout le quartier qui s'articule autour correspondait en fait, pour les archéologues, à un secteur clé, un secteur où on avait potentiellement une puissance stratigraphique immense. Ça veut dire que c'est le cœur de la ville, c'est là que Petra a commencé, c'est là que ça a continué à se développer tout au long de l'Antiquité, jusqu'à l'époque byzantine, jusqu'au Moyen-Âge, on a des traces médiévales. Donc on a vraiment, à cet endroit-là du site, une histoire complète, condensée sur quelques centaines de mètres carrés. Le monument qui était très ruiné à côté du temple s'est révélé être un monument d'époque romaine impériale, un monument gigantesque avec des centaines de blocs sculptés, de la sculpture, des blocs d'architecture, et tout ça donc est fouillé depuis 1999 avec quelques interruptions, et on est en train de préparer la publication. On peut maintenant restituer quasiment la totalité du bâtiment, et c'est un édifice qui est extrêmement important dans l'histoire urbaine de Petra, parce qu'il marque un petit peu cette transition entre l'époque nabatéenne, l'époque royale nabatéenne, et l'intégration de ce royaume nabatéen à l'Empire romain. Donc au tout début du IIe siècle après Jésus-Christ, en 106, le royaume nabatéen, au moment d'une crise dynastique, est englobé dans l'Empire romain. Et Petra est une ville extrêmement riche et qui va rester une ville extrêmement riche à l'époque romaine. Et par l'architecture, par l'urbanisme, on voit cette marque de l'Empire romain qui va venir remodeler complètement le centre-ville religieux, politique. Et le bâtiment qu'on étudie est exactement dans cette logique de reprise en main de la ville par les Romains.
Et qui est la marque donc de l'influence politico-religieuse des Romains qui, à ce moment-là, prennent possession de cette région.
Exactement. Oui. Et cette juxtaposition entre le Grand Temple et ce bâtiment à abside, c'est un geste très fort. Et la reconstitution qu'on est en train de proposer de ce bâtiment, elle est en train de confirmer, de renforcer ce côté geste architectural. Certes, il avait une inscription monumentale, il était orné de statues des empereurs. Donc là, c'est comme si le bâtiment avait encore son étiquette. On a une dédicace, donc on a exactement la date. On sait que c'est un bâtiment qui est donné à la ville de Petra par les deux co-empereurs, Marc Aurèle et Lucius Verus. Mais jusque-là, on pensait qu'il était relativement modeste par rapport au temple qui est à côté. Et au fur et à mesure de l'enquête, au fur et à mesure de la modélisation, de la reconstitution, on est en train de lui rajouter des étages à chaque campagne quasiment. Et là, il est en train de prendre de la hauteur et de prendre une importance visuelle. Et on est en train de réfléchir aussi à la transformation du Téménos, l'enceinte sacrée du temple, dont on voit que son accès a été modifié. Et qu'à l'époque romaine, en même temps que ce monument à abside est construit, une entrée monumentale à une centaine de mètres plus à l'est est installée, qui va en fait réaxer les visiteurs qui vont arriver dans le sanctuaire, non plus face au temple nabatéen, mais face à ce nouveau monument impérial. Donc là, il y a une vraie scénographie urbaine qui est extrêmement intéressante.
Ça nous amène un petit peu à votre travail, parce que ici, on est à Nanterre, on n'est pas du tout sur le terrain, on est dans un bureau, donc vous travaillez à faire de la modélisation. Et donc comment vous faites concrètement? Vous prenez des modélisations en trois dimensions, des blocs, et vous essayez de les placer un peu comme on pourrait jouer à construire une maison
Alors idéalement, on se dit qu'effectivement il suffit de trouver quel bloc colle avec quel bloc. C'est en fait beaucoup plus compliqué. Toutes les constructions à Petra sont faites en grès, qui est une roche extrêmement friable. On ne peut pas dire « ah, ça colle », c'est extrêmement rare. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail d'hypothèse et de comparaison. On ne revient en France avec aucun des blocs qu'on a trouvés, mais en revanche, on revient avec toutes les données suffisantes pour les reconstituer en 3D. Sur ce bâtiment à Petra, on a la chance d'avoir énormément de blocs, un décor extrêmement riche et assez cohérent, et surtout des parallèles à Petra même et dans le monde romain qui nous permettent d'avoir une voie pour superposer tous ces blocs.
Est-ce qu'on peut voir peut-être une des reconstitutions que vous faites ?
Ici, par exemple, ça a l'air tout petit à l'écran. C'est un bloc qui fait 1 mètre de large, 60 cm de haut. C'est une tête monumentale de Gorgone. Et on voit qu'elle est associée à une volute ici et à des rinceaux. En fait, ça, c'est l'extrémité d'un chapiteau corinthien.
D'accord.
Un chapiteau de pilastres. Et donc, déjà, avec ce bloc-là, on voit qu'on a un pilastre ici, avec sa moulure, avec la tête de Gorgone, ici. un autre chapiteau corinthien. Et cet élément-là, on va voir comment l'intégrer dans la restitution telle qu'on l'avait déjà. Et ça, c'est typiquement l'exemple de bloc qui nous permet de rajouter encore un étage à ce qu'on avait déjà reconstitué les années précédentes.
Mais c'est impressionnant, ces représentations en trois dimensions. Tout ça, c'est fait grâce à des photos qui sont prises en cercle autour
oui,
de...
Oui, et justement, on a depuis quelques années de nouveaux outils qui nous font gagner un temps fou et qui nous font également gagner en précision. Jusqu'ici, quand on trouvait un bloc, pour le documenter, on le dessinait. Ça veut dire qu'il fallait tout mesurer. Quand il s'agit d'un bloc de corniche ou d'un bloc de moulure, c'est assez simple. Quand ce sont des blocs figurés, comme celui-ci avec un griffon, un petit amour ailé, des rinceaux, des feuilles d'acanthe, c'est extrêmement compliqué. Un bloc comme ça à dessiner, il faut un ou deux jours. Et on n'est pas forcément très précis. Avec ces nouveaux outils photogrammétriques, en un quart d'heure, sur une sorte de sphère virtuelle, on va prendre une centaine de photos. Le logiciel reconnaît des groupes de pixels qui se ressemblent et calculer en coordonnées polaires tous les points caractéristiques de l'objet. Là, on a un bloc qui est entièrement modélisé, très très précisément. Ici, c'est la vue frontale et j'ai la vue de dessus, j'ai la vue de dessous.
On voit même les fissures dans la roche.
Là, c'est un bloc qui est très fracturé, mais qui est très joli, où on voit qu'en fait, on a vraiment le détail des rinceaux. Et... Le principe, quand on publie ce type de monument, c'est qu'on ne va pas juste donner la 3D en disant « voilà, c'était comme ça ». Il faut qu'on publie tout l'appareil qui va avec. Ça veut dire qu'on publie tous les blocs et un autre chercheur va pouvoir, sur la base des mêmes pièces de puzzle, proposer éventuellement un autre assemblage. Ouais. Et ça, c'est important dans la démarche scientifique de ne pas donner que le résultat. Donc ça, c'est le catalogue de blocs. On a les orthophotographies tirées du modèle 3D, les dessins qu'on va en tirer.
Et... C'est un peu comme un manuel IKEA avec
c'est
toutes les pièces.
Ça. Mais c'est exactement ça. Et on produit des dessins qui, pour certains, ressemblent vraiment à des notices de montage IKEA. Et l'autre élément très important de ce travail, c'est ça, c'est le plan de chute. Sur lequel, au fur et à mesure qu'on trouve les blocs et qu'on les démonte, je les place. Et j'ai plusieurs calques avec les différents niveaux de blocs, de démontage. Et par cette position, on va pouvoir les repositionner. Et ici, par exemple, on voit qu'il y a le bloc de méduse, il est là. On a la tête de méduse qui est ici. Le griffon avec les petits anges, il est ici. C'est assez cohérent, puisqu'a priori, on associe cette frise de griffon à l'entablement du chapiteau corinthien qui est associé à la tête de méduse.
Merci Alexandre Morales pour ce reportage. Laurent Tolbeck, une réaction à ce que vous venez d'entendre?
Ah oui, Thibaut Fournet est un architecte absolument exceptionnel et il a bien insisté sur l'importance de la documentation sur le terrain, donc les plans de chute, essayer de savoir d'où vient chacun des blocs précisément pour pouvoir restituer sa position originale. Et donc c'est un bâtiment tout à fait extraordinaire. L'un des autres intérêts, c'est avoir un bâtiment daté. Alors vous allez dire, oh, c'est encore de l'archéologie monumentale, mais avoir un bâtiment comme celui-là daté, ça permet de comprendre une école de sculpture, ça permet de comprendre un atelier propre à Petra. Et par ailleurs, il y a des figures. Alors ces figures, ça permet aussi de comprendre un programme iconographique. Il y a des représentations de divinités du monde méditerranéen en haut, qui encadrent la famille impériale et les empereurs, les co-empereurs. Et puis plus bas, intégrés dans ce bâtiment romain, il y a des représentations de divinités nabatéennes. Donc on montre bien qu'on cherche à intégrer ce monde ancien à un monde nouveau.
François Renel.
Oui, alors c'est vrai que ce monument, on a mis énormément de temps à le fouiller quelque part, et c'est toute la partie en fait sud du bâtiment qui nous a livré les éléments pour pouvoir les restituer, puisque toute la partie nord avait été récupérée au cours de l'Antiquité, donc lors de ce qu'on appelle une phase de spoliation, donc au cours de la période byzantine, pour construire les églises byzantines qui sont sur l'autre rive du Wadi. Donc les premières années, on a été face à des milliers de blocs, mais petit à petit, on a trouvé les éléments, en fait, les chaînons manquants pour pouvoir restituer les élévations dont parlait Thibault.
Et les fouilles continuent puisque Laurent Tolbeck, vous poursuivez justement ces fouilles, vous étendez les recherches à l'environnement direct du temple. Vous avez un premier projet porté sur la chapelle d'Obadas que vous avez fouillé, enfin sous votre direction. Quel est justement cet espace?
Alors ça, il faut comprendre comment fonctionne cette ville. Il y a un centre-ville et vous avez compris qu'il y avait des montagnes tout autour. Et donc l'hypothèse de travail, c'est que ces montagnes sont occupées par, disons, des segments différents de la population. Une tribu va être au nord-ouest, une autre au sud-est, etc. Et donc l'idée, c'était d'essayer d'étudier le sanctuaire d'un quartier périphérique. Non pas le grand sanctuaire dynastique du centre-ville, mais quelque chose de plus périphérique. Et donc c'est ça, c'est le lieu de réunion d'une tribu qu'on peut suivre épigraphiquement grâce à une inscription pendant 5 générations et archéologiquement pendant 7 générations plus ou moins, et essayer de comprendre comment fonctionne en fait cet espace. Ce sont des salles de banquet essentiellement, donc quand vous avez une réunion de famille importante, qu'est-ce qui se passe? On mange ensemble, que ce soit un mariage, un enterrement, c'est quelque chose de tout à fait logique. Donc c'est le cadre de ces réunions qui a été retrouvé, avec un aspect intéressant, c'est que au moment de l'annexion romaine, cet endroit est abandonné. Donc, il y a peut-être là un problème, si vous voulez, un conflit entre la structuration sociale et le nouveau pouvoir.
Donc, en effet, comme vous dites, là, ce sont 7 générations qui se sont succédées, ce qui permet donc d'étudier l'évolution, en tout cas, de ces 7 générations, Laurent Delbecq.
Oui, et donc on voit des évolutions de pratiques, des évolutions de mobilier et aussi, grâce à l'inscription que je signalais tout à l'heure, des évolutions plus larges en termes de divinité. C'est-à-dire que vous avez tout d'abord une divinité anonyme et puis la divinité associée à un personnage et puis la nouvelle divinité que ce même groupe vénère, c'est un roi nabatéen divinisé, avec une date précise d'une dédicace en 20 de notre ère. Donc on peut suivre des évolutions sociétales assez intéressantes en fait.
Vous explorez en 2012 le sommet du Jabal Rupta, et là encore vous faites des découvertes inattendues, Laurent Delbecq.
Ah oui, la grande surprise était de découvrir des bains au sommet d'une montagne. Vous allez me dire pourquoi c'est une surprise? Ben surtout parce que pour avoir des bains, il faut alimenter ces thermes en eau. Ça veut dire que l'eau venait d'encore un tout petit peu plus haut. Donc ça nous a contraints à essayer de réfléchir à l'adduction d'eau aux citernes. Et donc c'est un état. Donc Thibaut Fournet, dont vous avez fait une interview tout à l'heure, est un spécialiste des bains du bassin oriental de la Méditerranée. Donc il s'est fait un immense plaisir en reconstituant les diverses salles, les circulations. C'est un bain d'époque tardo-romaine, 3e, 4e, et qui se superpose à des thermes probablement du 2e siècle. Alors le plus passionnant, enfin, me semble-t-il, une des choses les plus intéressantes, quand on fouille des bains, avec un peu de chance, on trouve les combustibles, ce qu'on utilisait pour chauffer l'eau et chauffer les salles. Alors, le combustible, ce sont des végétaux. Et donc, nous avons une collègue, Charlène Bouchaud, du Muséum d'Histoire Naturelle, qui a fait ce qu'on appelle de l'anthracologie. Donc, elle a essayé de voir les charbons de bois, essayé d'identifier les essences des charbons de bois. Elle a aussi fait de la carpologie, essayé de voir les graines. Et donc, ça nous a donné, pour le 4e-5e siècle, une image assez formidable des espèces végétales qui poussaient dans la ville. Et donc, c'est d'une part la végétation spontanée, donc du genévrier, du chêne, du cyprès, des choses comme ça, mais aussi des vergers, des jardins, des plantes cultivées, de l'olivier, du figuier, du grenadier, de la vigne, évidemment. Donc voilà, ça nous a donné, grâce à ces analyses de combustibles associés à ces termes, ça nous a donné une image de la végétation qu'il y avait dans la ville à ce moment-là.
C'est-à-dire que grâce à ces bains chauffés, on peut aussi peut-être reconstituer tout le couvert végétal de Petra.
Oui, alors ça peut être croisé avec d'autres analyses qui sont faites dans d'autres sédiments archéologiques, d'autres dates. Et donc, en croisant des informations similaires, c'est ce qu'on appelle l'archéobotanique, en croisant des informations similaires qui viennent de contextes de dates différents, on peut aussi proposer une évolution. Donc, par exemple, vous avez du prunus et vous dites, tiens, un prunier, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être toutes sortes de choses, un pêcher, un amandier, un abricotier. Est-ce que, si vous avez le noyau, est-ce que c'est quelque chose qui est importé? Ou si vous avez le bois, est-ce que c'est quelque chose qui est produit sur place? Donc, ça permet vraiment d'aller assez loin dans la compréhension d'un couvert végétal.
Laurent Delbecq, vos recherches donc portent sur les différents espaces religieux de Petra, mais en quoi la variété, la distribution spatiale des lieux de culte reflète finalement la structuration de la société nabatéenne?
Mais c'est l'idée, donc, effectivement, les gens fréquentent un lieu de culte qui est associé à leur tribu, une divinité qui protège en quelque sorte traditionnellement leur tribu. Et puis, on se rend compte qu'il y a une évolution avec cette irruption de ce dieu Obodas qui est un roi divinisé. On a un sentiment qu'il y a une espèce de changement. On quitte le dieu protecteur de la tribu vers un dieu qui est lié, en fait, à la dynastie proprement dite. Donc, on sent là une espèce d'évolution sociétale qui est quand même assez intéressante.
On évoque là cette société nabatéenne, mais François Renel, et on vend Petra d'ailleurs pendant toute la durée de cette émission comme une ville nabatéenne, mais on perçoit de plus en plus également l'empreinte de Rome sur cette ville.
Oui, alors c'était un peu une des données nouvelles issues de, enfin qui est une des conclusions de nos fouilles, c'est qu'effectivement pendant très longtemps on a un peu daté tout de la période nabatéenne, mais on se rend compte en particulier grâce au travail de Laurent Tolbeck sur le théâtre en particulier que ce dernier est de la période romaine. Le monument dont parlait Thibaut Fournet est un monument impérial destiné à honorer les empereurs. Nous avons aussi, en fait, dans l'espace qui est contigu au Théménos du temple, un petit temple qui est destiné au culte impérial, donc un petit temple dédié à Trajan. La porte du Théménos est un arc monumental romain. Le temple en lui-même a été entièrement redécoré et recouvert de marbre au cours de la période romaine. Donc l'empreinte de Rome est à la fois politique, mais aussi elle marque en fait le paysage architectural de Petra.
Laurent Tolbeck.
Oui, c'était certainement l'une des nouveautés. Alors, l'aspect intéressant, c'est se dire, tiens, mais enfin, c'est quand même une ville de province. Et pourtant, il y a ces monuments extraordinaires. Donc, on a le sentiment que Rome vient avec un programme et qu'il faut bien marquer, en fait. C'est une marque monumentale de reprise en main. C'est véritablement ça qui se passe. Mais si vous permettez, je pense qu'il y a un aspect très important aussi de notre travail, c'est de considérer qu'en fait, on fait de l'enregistrement. Il y a certes de la fouille, mais on enregistre tout ce qu'on voit, parce qu'on a quand même le sentiment que tout ça peut disparaître relativement vite. Et donc, l'un des objectifs, c'est quand même de documenter un maximum. Il n'y a pas que la fouille, il y a la documentation brute, en fait, de tout ce qui est visible. C'est un élément très, très important de notre travail.
Oui, puisqu'en effet, c'est un site qui, enfin, Petra constitue un patrimoine en danger, à François Renel.
Alors, effectivement, bon, on parlait des crues en particulier. Effectivement, elles sont dommageables chaque année. Elles ont l'air d'être de plus en plus fréquentes. Il y a aussi l'impact du surtourisme. Donc, ce sont des données qui sont pas négligeables. Et puis, il y a une érosion naturelle qui se fait progressivement. Le site a été depuis sa destruction, en fait, il continue à se dégrader au fur et à mesure du temps.
Oui, donc on est vraiment dans une logique préventive concernant Petra, Laurent Tolbeck.
Oui, d'autant que il faut comprendre qu'il y a le centre-ville dont on parle, mais en fait, il y a un parc archéologique qui fait 2,5 fois la surface de Paris intramuros. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et dans cet arrière-pays, il y a évidemment une pression immobilière, une pression de la population, des terrains qui sont vendus, qui sont achetés, qui sont transformés. Et donc, il n'y a pas que le centre-ville qui subit cette pression, mais l'ensemble du parc, en réalité, donc l'ensemble de la région, donc également l'arrière-pays. Pourquoi l'arrière-pays est important? Parce que c'est dans l'arrière-pays que se développaient les fermes. L'arrière-pays, c'est la réserve alimentaire de cette ville. Et donc, on ne peut pas comprendre cette ville sans étudier son arrière-pays, et malheureusement, cet arrière-pays est en train d'être détruit.
Par rapport au programme pour 2023-2027, François Renel, quel est le programme des fouilles architecturales?
Alors, comme le disait...
Archéologique, pardon,
architecturale. Oui, archéologie, architecture, les deux vont de pair.
Mais pas seulement.
Effectivement, là, nous avons fini de travailler sur les monuments impériaux romains, donc il est en cours de publication. Et nous sommes concentrés depuis maintenant 2-3 ans sur le bâtiment qui jouxte à l'est le temple du Castelbint. Et nous avons pu en fait identifier un complexe palatial qui se répartit en un ensemble de cours et de bâtiments plus ou moins luxueux. Alors c'est très vaste, hein, ça couvre une centaine de mètres de longueur sur à peu près 50 mètres de largeur. Donc des cours successives avec des colonnades, ce qu'on appelle des cours à stylobate, donc avec un péristyle, une colonnade. Et des éléments de plus en plus luxueux avec des peintures et des décors peints encore conservés sur les murs. Et il faut imaginer dans certains endroits une élévation de 5 mètres encore conservée sous les sédiments. Donc un travail de longue haleine qui nous attend.
Travail de longue haleine. Vous auriez dû partir en octobre, mais finalement vous avez dû décaler au mois d'avril prochain, c'est ça?
Oui, alors les conditions politiques, la géopolitique actuelle et les malheurs qui se passent actuellement nous ont forcés à annuler la mission et nous y retournerons donc au printemps avec Laurent Tolbeck et Thibaut Fournet.
Mais en tout cas, merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. On passe à présent à la chronique d'Alexandra Delbo. Toute la semaine, la chronique avec Science fait le point sur les idées reçues sur la grossesse. Aujourd'hui, épisode 2, l'alimentation a-t-elle une influence sur le sexe de son enfant ?
La L'alimentation permet-elle de choisir le sexe de son enfant ? L'idée est tentante, elle ne date pas d'hier et elle n'est pas née chez nous. Mais il y a un nom français que l'on retrouve souvent quand on se penche sur la question. C'est la méthode du docteur François Papa. Ça ne s'invente pas. Le concept est le suivant. Un régime alimentaire spécifique permettrait d'agir sur la progression de l'un ou l'autre des deux types de spermatozoïdes au moment de la fécondation. Une alimentation riche en calcium et en magnésium pour avoir une fille, donc des laitages, mais pas de fromage, de la viande blanche, des œufs, des fruits frais, pas de légumes secs, pas d'eau gazeuse, ni de thé, café ou chocolat. À l'inverse, pour avoir un garçon, il faudrait un régime alimentaire riche en sel et en potassium, donc des poissons fumés et en conserve, des céréales, du jus de fruits, oui au thé, oui au café, et tous les légumes sont autorisés, sauf les verts. Selon le docteur Papa, dans son ouvrage publié il y a maintenant plus de 40 ans, cette technique serait efficace à 80%. Alors, est-ce vrai ? Est-ce qu'on peut choisir le sexe de son futur bébé par l'alimentation ? Réponse avec Olivier Marpeau, gynécologue à Aix-en-Provence, qui lutte contre de nombreuses idées reçues sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Mon Gynéco et auteur de 1000 questions à Mon Gynéco, paru aux éditions Jouvence.
Alors, le fait que l'alimentation pourrait influer le sexe du bébé, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Je le dis tout de suite, c'est une légende urbaine. Comment ces régimes particuliers fonctionnent ? D'après les gens qui les proposent ou ce qu'on voit un petit peu sur les réseaux sociaux, en fait, l'objectif, ce serait de jouer sur l'acidité du vagin. Le vagin, c'est un milieu acide à la base. Et grâce au régime, on pourrait, et c'est encore une fois du conditionnel, modifier l'acidité du vagin pour sélectionner les spermatozoïdes de son choix. Les spermatozoïdes garçons, c'est-à-dire les Y, ou au contraire, si on veut une fille, les spermatozoïdes plutôt filles, c'est-à-dire ceux qui ont un chromosome X. Parce que les spermatozoïdes Y sont plus fragiles et ils résisteraient moins bien à un milieu qui serait acide.
On trouve d'autres techniques que la méthode Papa, avec des régimes riches en graisse saturée animale pour avoir un garçon et riches en glucides pour une fille. Le moment de conception aurait aussi son importance. Une fécondation dans la seconde partie de la période de fertilité favoriserait la naissance d'un garçon parce que les spermatozoïdes Y seraient moins rapides que les X. Il existe même un calendrier dit chinois qui donnerait avec certitude le sexe de votre bébé en fonction de l'âge de la maman et du mois de conception. Et bien sûr, tout cela est faux. Cela n'a jamais montré aucune efficacité. Il y a une chance sur deux d'avoir une fille et 50% de probabilité d'avoir un garçon. Et il faut le souligner, ces méthodes ne sont pas dénuées de risques, que ce soit pour des carences ou pour votre porte-monnaie.
À partir du moment où elles vont se limiter à certains aliments, on peut manquer et avoir des carences dans d'autres nutriments ou vitamines. Et là, ça peut poser problème. On sait très bien aujourd'hui que pour améliorer la fertilité, pour améliorer l'état de santé général, ce qui est très important pour une femme qui souhaite concevoir, c'est important qu'elle ait une alimentation équilibrée les mois qui précèdent la conception et au moment de la conception. Donc c'est pour ça que nous, les professionnels de santé, on a plutôt tendance à dire à nos patients d'éviter ce genre de régime qui ne leur permettront pas d'améliorer les statistiques d'obtention d'un garçon ou d'une fille, mais qui, en revanche, à coup sûr, risqueraient de créer des carences, de baisser leur fertilité et de les mettre dans des conditions de santé qui seraient néfastes en début de grossesse. Les idées reçues, c'est de penser qu'on a besoin, je parle de gens qui n'ont pas de soucis de santé particuliers, de se complémenter, de se supplémenter absolument pour pouvoir bien faire les choses, booster sa fertilité, choisir le sexe de son bébé. Tout ça, c'est vraiment des idées reçues. Ce qui compte, et on le sait très bien aujourd'hui, c'est d'avoir l'alimentation la plus équilibrée possible, de bien s'hydrater. C'est pas la peine de dépenser beaucoup d'argent dans des complémentations qui n'ont pas prouvé leur efficacité scientifiquement.
Pas de régime pour choisir le sexe de son bébé et pas besoin de compléments alimentaires pour booster sa fertilité non plus. Tout ça, c'est pour avant la conception, une fois que c'est fait, une fois que la fécondation a eu lieu. Il n'y a là aussi aucun moyen d'influencer le sexe de l'enfant à naître. Et avoir des envies particulières, le bec salé ou sucré pendant la grossesse n'est pas un signe de l'un ou de l'autre. Et la forme du ventre ne vous renseignera pas non plus. Seul moyen de connaître le sexe de l'enfant, attendre l'échographie du second trimestre si vous êtes trop impatient, celle du premier peut vous donner sans certitude une piste ou alors un moyen technique théorique, le diagnostic préimplantatoire qui permet de trier les embryons XX des XY. C'est fiable à 100%, mais en France, c'est exclusivement à visée thérapeutique pour éviter une pathologie grave et incurable portée par l'un ou l'autre des chromosomes sexuels.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Alexandre Morales, Ali Ruyère-Thompson. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique, aujourd'hui, Jean Guilin-Meige. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.